Jean est parti. Il leur a faussé compagnie de façon aussi surprenante qu'il les a abordés tout à l'heure. Il a disparu avec son béret et son gilet de berger en les saluant d'un geste de la main. Ils en sont restés circonspects, et un type, qui fumait une cigarette devant une boutique de vieux couteaux, leur a lancé en souriant.
« C'est une légende ici !»
Ils se sont approchés de l'homme. Émile a demandé.
« Il est là depuis toujours ?»
L'homme a dodeliné de la tête.
« Presque. C'est un ancien berger. Quand il est venu s'installer au village, il est allé rencontrer les anciens et il les a interrogés pendant des heures sur l'histoire du village et la vie de l'époque. »
Émile est resté perplexe face à l'homme.
« On lui a rien donné en échange ?»
Et le type a ri.
« Il veut rien ! Il fait ça en toute générosité !»
Ils se sont assis au pied de la cathédrale Saint-Vincent et ils ont regardé le soleil se coucher tout doucement sur Eous. Les pierres se teintent de lueurs dorées qui glissent le long des ruelles. Les toits rougeoient. Un fin liseré rose orangé se dessine à l'horizon. Au-delà des murailles, la végétation s'assombrit. Ils n'arrivent plus à parler. Ils n'arrivent plus à s'arracher à la contemplation du spectacle. Cette journée a été comme une journée hors du temps. Jean, les pavés, les pierres chargées d'histoire.
Émile.
Joanne a parlé dans un souffle. Ses yeux n'ont pas quitté le rougeoiement du soleil sur le toit des maisons.
Ouais.
Je crois bien qu'on va s'installer ici.
Elle le regarde maintenant. Son visage d'ordinaire si pâle et inexpressif est chargé de lumière et d'émerveillement. C'est comme s'il reprenait vie, comme s'il se réchauffait.
Ouais,
dit-il simplement. Il ne sait pas s'il aura les mots pour décrire ce qu'il a vu aujourd'hui dans son carnet. Il récupère la gelée de lavande à même le pot avec leurs doigts. Il racle bien les rebords afin d'être sûr de ne pas en perdre une bouchée. Ensuite, il se lèche le doigt goulûment en fermant les yeux. Le pot est déjà à demi entamé. Émile parie qu'ils le finiront ce soir. Sa gelée de lavande est réussie. Joanne a les yeux qui pétillent. Il est heureux de l'avoir comme ça. Ils ont sorti la table et les chaises pliantes et ils se sont installés à côté du camping-car sur le parking qui fait face aux murailles. Ça n'est pas le meilleur endroit où ils ont campé, mais ça n'a pas d'importance. Demain, ils chercheront un petit appartement où s'installer pour un mois. Ils abandonneront le camping-car sur ce parking, ils signeront un bail et ils emménageront tous les deux. Il y a un mois, Émile apprenait qu'il était condamné, qu'il passerait ses deux dernières années enfermé dans un centre d'essais cliniques. Aujourd'hui, il mange une délicieuse gelée de lavande face au plus beau village qu'il ait jamais vu. Demain, il s'installera avec Joanne. Dans quelques semaines, ils se diront oui à la mairie. La vie n'en a jamais terminé, il l'a bien compris. Tant qu'il décidera qu'il n'est pas mort, elle continuera de lui jouer de drôles de tours. Et il n'est pas encore mort, au contraire. Il ne s'est jamais senti aussi vivant. Joanne est une tornade ce matin. Elle fait des allers-retours au camping-car tandis qu'Émile essaie de dormir tant bien que mal. Il l'entend entrer et sortir, prendre une tasse sous l'évier, faire chauffer de l'eau, laver une cuillère. Elle part un long moment, presque une heure. Il a juste le temps de se rendormir, puis elle revient et fait de nouveau couler de l'eau. Elle fouille dans le placard, fait tomber quelque chose. Émile finit par se lever. Il comprend qu'il ne pourra pas dormir davantage avec tout ce bazar.
Qu'est-ce qui se passe? On est déjà en plein déménagement?
Il saute au bas de l'échelle en corde. Joanne est en train de replier la banquette sur laquelle elle dort en bas.
Salut, dit-elle se relevant. Je t'ai réveillé?
Un peu.
J'ai croisé Jean à l'entrée des housses. Je voulais commencer à repérer les rues et les appartements à louer.
Il se frotte les yeux, étouffe un bâillement. Il n'a aucune idée de l'heure qu'il est. Il pensait avoir peu dormi, mais vu la position du soleil, il ne doit pas être loin de midi.
Il est toujours planté à l'entrée du village ? Demande-t-il pour la forme.
Oui, il était avec cette dame au tablier jaune, la même qui était là hier.
Il se souvient de cette dame d'une cinquantaine d'années qui leur a parlé depuis sa fenêtre.
il acquiesce et se dirige vers le plan de travail pour se préparer un thé. Elle m'a salué et m'a demandé pour combien de temps on était là. Je lui ai dit qu'on cherchait à s'installer pour quelque temps dans le village. Elle m'a dit que l'appartement au-dessus de chez sa mère était libre. Il s'interrompt, la bouilloire à la main, et se tourne vers Johan.
Quoi ?
En fait, c'est un seul et même appartement, sur deux étages. Mais sa mère a 84 ans et beaucoup de mal à se déplacer. Ils ont réaménagé l'appartement pour qu'elle puisse vivre uniquement au rez-de-chaussée. Ils ont fait installer une baignoire et un cabinet de toilette en bas. Ça fait 2 ans que l'étage du haut est inoccupé.
Ah !
Il se dit que c'est une sacrée coïncidence. Elle n'a pas pu le louer en 2 ans ? Johan a une moue qu'il ne parvient pas vraiment à déchiffrer. Une moue contrariée.
En fait, elle propose un échange de bons procédés en contrepartie de la moitié du loyer.
Il ne comprend pas mieux. Il voit que Johan marche sur des œufs, qu'elle guette sa réaction.
C'est-à-dire ? Interroge-t-il.
Elle cherche des personnes sérieuses, capables de veiller sur sa mère en contrepartie. La moitié du loyer est offerte. Il fronce les sourcils.
C'est pas une arnaque, ce truc ?
Il suffirait de passer plusieurs fois dans la journée pour s'assurer qu'elle va bien et lui tenir compagnie. Elle a déjà une femme de ménage. Il s'agirait juste de veiller un peu sur elle.
Johan attend sa réaction avec une certaine anxiété.
Qu'est-ce que t'en dis ?
Il repose la bouilloire sur le plan de travail.
Je sais pas, on vivrait chez elle ?
Plus ou moins, disons juste au-dessus. Mais on aurait un escalier indépendant pour monter à l'étage.
Il ne peut s'empêcher de froncer encore les sourcils.
Je sais pas, m'occuper d'une vieille, c'est pas vraiment mon truc.
Johan tente une nouvelle carte avec un nouveau regard anxieux.
On aurait accès à sa cour intérieure. Elle dit que sa mère n'y va jamais. C'est une jolie cour ombragée avec un grand platane.
Il se remet à la préparation de son thé. Il ne sait pas quelle idée cette femme a mise dans la tête de Johan, mais visiblement ça a pris. Pendant quelques secondes, Johan ne dit plus rien. Elle le regarde faire bouillir l'eau, la verser dans une grande tasse, y plonger un sachet de thé. Puis elle le suit à l'extérieur quand il s'installe à la table pliante.
On aurait nos noms sur le bail ?
Après tout, c'est la seule raison pour laquelle il cherche à louer un appartement dans le village.
Oui, elle me l'a certifié. Mais ça n'est pas tout.
Il la regarde se pencher au-dessus de la table avec un air sérieux.
Elle ne réclame ni garant, ni contrat de travail.
Il se retrouve un peu pris au dépourvu.
On n'y a pas réfléchi hier, mais c'est un point qui risque de poser problème.
Elle a raison. Ils se sont emballés hier. Ils n'ont pas pensé à tout. On ne conclut pas un bail comme ça. Il y a des conditions à respecter. Or, ils n'ont ni garant, ni contrat de travail, ni source de revenus régulière à justifier.
Eh merde, lâche-t-il avec une certaine mauvaise humeur.
Johan fronce les sourcils.
Qu'est-ce qu'il y a ?
T'as raison, on est bloqué.
Elle dodeline de la tête. Il a cru qu'elle était emballée par l'idée d'aider une vieille dame, mais non. Elle a simplement compris qu'il n'avait guère le choix.
Ça t'a pas semblé être une arnaque ? Demande-t-il en s'enfonçant dans sa chaise.
Pas vraiment.
On peut visiter l'appartement ?
Oui, elle propose de nous le faire visiter cet après-midi.
Bon.
Elle attend quelques secondes et comme il n'ajoute rien, elle demande.
Je lui dis qu'on est d'accord ?
Il est un peu contrarié. Ça pourrait être un plan B, effectivement. Si ça leur permet d'obtenir les papiers pour le mariage, ils pourraient s'en accommoder pour 1 mois.
Ouais, on peut toujours le visiter.
Puis on avisera.
La dame a retiré son tablier jaune. Elle porte une robe d'été fleurie, blanc et rose, et une petite sacoche dorée. Elle les accueille avec un large sourire, comme la veille au pied des murailles.
Bonjour !
Elle a déjà vu Johan ce matin, alors elle salue seulement Émile d'une poignée de main.
Heureuse de vous revoir !
De même.
Je m'appelle Annie.
Moi, c'est Émile.
Elle replace la lanière de sa petite sacoche sur son épaule et ajoute.
Votre ami m'a dit que vous comptiez vous installer dans notre joli village pour quelque temps ?»
Émile hoche la tête.
« On ne sait pas encore si on y restera à terme. »
Il essaie de se montrer prudent. Il ne sait pas ce que Johanna a raconté. Il ne sait pas si cette femme est disposée à louer cet appartement à des touristes de passage pour un mois seulement.
« Elle m'a parlé d'un mois au moins. »
Il acquiesce avec un certain soulagement. « C'est ça. » Au moins, les choses sont claires dès le départ. La femme leur fait signe de la suivre et ils empruntent une ruelle qui grimpe sur la gauche.
« On a du mal à louer l'appartement. Les gens sont en général de passage ici. Ils y restent pas. »
Leurs pas résonnent sur le pavé. Ils croisent un groupe de touristes étrangers qui suit un guide portant un mégaphone.
« Pour des touristes qui restent ici quelques jours, l'offre n'est pas vraiment intéressante. Tout ce qu'ils recherchent, ce sont des locations de vacances, rien de plus. Maman n'aimerait pas avoir un défilé d'inconnus permanents. Elle a besoin de stabilité à son âge. »
Émile et Johanna acquiescent d'un même mouvement.
« Vous verrez, l'appartement est petit mais calme. La cour intérieure est vraiment charmante. Vous pourrez en profiter en toute tranquillité. Maman n'aime pas beaucoup sortir l'été. La chaleur est étouffante, même à l'ombre. Elle préfère rester dans son salon avec le climatiseur. Alors vous pourrez vous y installer sans problème. »
Il s'arrête quelques secondes plus tard et Annie se met à fouiller dans sa sacoche à la recherche de clés.
C'est cet appartement. Comme vous voyez, je n'habite pas très loin de chez maman. Je peux y passer au moins une fois par jour. Enfin, lorsque je ne garde pas mes petits-enfants. Ma fille et mon gendre habitent dans la région.
Il se trouve dans une ruelle pavée extrêmement étroite. Des appartements, qui ressemblent davantage à des maisonnettes en pierre, s'étendent de part et d'autre de la ruelle. Annie désigne une petite porte rouge vif au-dessus de laquelle est inscrit sur une faïence le numéro 6. Le bâtiment de pierre est minuscule. Une petite fenêtre en rez-de-chaussée, peinte en rouge, est décorée d'un pot de géranium. Un voile en dentelle protège l'intérieur des regards curieux. Une seconde fenêtre à l'étage, fermée par d'épais volets en bois marron, indique que cette partie de la maison est inoccupée. La largeur du bâtiment doit à peine excéder 4 mètres. À côté des autres maisonnettes de la ruelle, le bâtiment paraît ressembler à une maison de poupée. Annie grimpe sur la petite marche qui permet d'accéder à la porte rouge et fait tinter les clés en les insérant dans la serrure. La porte s'ouvre et elle les invite à la suivre à l'intérieur.
« Maman !»
crie-t-elle en refermant la porte derrière eux.
« Maman, c'est moi, Annie! Je fais visiter l'appartement à des jeunes gens !»
Ils se trouvent dans un couloir sombre qui doit déboucher sur un salon et une cuisine. Un ray de lumière filtre sous la porte. Tout de suite à leur gauche se trouve l'escalier qui permet d'accéder à l'étage. C'est un escalier en bois recouvert de moquettes. Une voix de vieille dame retentit de façon étouffée.
« D'accord, tu viens me voir après ?»«
Oui, maman, je leur fais visiter l'étage et on passe te voir. »«
D'accord. »
Annie leur désigne l'escalier à leur gauche.
« Allez-y, je vous suis. »
Johanna passe devant. Émile la suit. Il monte les marches et se retrouve dans une pièce plongée dans l'obscurité, dont il ne distingue même pas les contours.
« Oh, excusez-moi !» s'exclame Annie. « J'aurais dû passer devant, il faut que j'ouvre les volets. »
Elle fait quelques pas qui sont étouffés par la présence de la moquette au sol. Ils entendent une fenêtre s'ouvrir, des volets grincer, puis ils sont aveuglés par la soudaine lumière du soleil venant de la rue. Ils sont assez surpris de découvrir l'endroit où ils se trouvent. Émile s'était attendu à un intérieur lugubre et surchargé de vieilles dames, mais la pièce dans laquelle il se trouve est aérée, lumineuse et plutôt moderne. Annie semble noter la surprise sur son visage, car elle explique.
« Mon mari et moi avons refait l'intérieur lorsqu'on a décidé d'installer maman au rez-de-chaussée. On a cassé les cloisons pour en faire un grand studio et on a essayé de moderniser un peu la décoration. »
Hormis la moquette beige qui a été laissée intacte, l'intérieur semble en effet avoir été refait de fond en comble. Les murs ont été retravaillés pour y laisser apparaître les jolies pierres de construction. Le plafond semble avoir été repeint récemment en blanc. Des luminaires y sont incrustés. La pièce est en effet un studio, meublé d'un large canapé d'angle blanc,
d'une table basse et d'une étagère remplie de livres. Une kitchenette occupe le mur opposé. Au-dessus des plaques chauffantes et du petit frigo, se trouve une seconde ouverture, comme une lucarne, qui doit donner sur la cour intérieure. Elle les invite à s'avancer dans la pièce près d'un placard mural, et ils comprennent vite pourquoi. Derrière le canapé d'angle, en partie masqué par l'étagère pleine de livres, se trouve une petite porte qu'elle ouvre.
Voici la salle de bain et les toilettes.
Ici aussi, tout a été refait à neuf. Une belle douche à l'italienne d'un blanc étincelant, un robinet en faux galet. Un petit Velux leur permet d'aérer la pièce. C'est petit, mais c'est mignon et bien pensé.
Maman a laissé ici quelques affaires que vous pourrez utiliser. Du linge de toilette, des livres, un jeu de Scrabble. À son âge, elle préfère la télévision.
Ils sont de retour dans la pièce principale devant les escaliers.
Comme je l'expliquais à votre ami ce matin, je vous propose un loyer divisé par deux en échange d'une attention toute particulière portée à maman. Je ne vous demande pas de vous charger de son ménage ou de sa toilette. Maman a déjà une aide à domicile qui s'en occupe et qui passe tous les matins très tôt vers 7 heures. Vous la croiserez à peine. Non, il s'agit juste de lui tenir un peu compagnie. Prendre quelques minutes pour discuter avec elle, l'aider à descendre dans la cour si elle a envie de prendre l'air, nourrir son chat, lui souhaiter bonne nuit le soir.
Johan hoche la tête. Émile reste à l'arrière, un peu hésitant. Cet appartement n'est pas si mal. Il trouve qu'on s'y sent bien. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Je vous emmène rencontrer maman et voir la cour intérieure.
Ils suivent Annie dans les escaliers. Ils se retrouvent de nouveau au rez-de-chaussée et traversent le couloir sombre. Annie leur désigne des portes fermées.
Ce sont la chambre de maman, ses toilettes et sa salle de bain.
Au bout du couloir, elle ouvre la porte et ils se retrouvent enfin dans la lumière. Ce salon-là est un véritable salon de vieille dame. Une tapisserie verte aux liserés dorés, des fauteuils en velours, des tapis à larges franges, des napperons sur les meubles. Une vieille dame est assise dans l'un des fauteuils, un chat posé sur les genoux. Elle a des cheveux blancs retenus en un chignon et des yeux bleus perçants.
« Maman, voici des jeunes gens qui sont venus visiter l'appartement. »
Le chat, un gros matou au poil roux, saute au bas du fauteuil et s'enfuit, effrayé par les invités. Il le voit sortir par une porte-fenêtre, semblant donner sur la cour intérieure.
« Ah !»
fait la vieille dame.
« On dirait que Canaille a eu peur. »
Émile et Johan s'approchent pour la saluer.
« Bonjour, madame. »
La vieille dame a l'air encore vive. Elle leur tend une main encore ferme, mais se fait houspiller quand elle essaie de se lever.
« Reste assise, maman !»
La vieille dame leur sourit en levant les yeux au ciel. Derrière elle, la télévision tourne en fond. Elle diffuse un feuilleton qui se déroule à la campagne, dans un chalet. Dans le fond de la pièce se trouve une kitchenette exactement identique à celle qui se trouve à l'étage, sauf que celle-ci est recouverte de fleurs séchées, disposées dans d'affreux vases du même vert et or que la tapisserie.
« Venez, » indique Annie, « je vais vous montrer la cour intérieure. »
Émile et Johan passent la porte-fenêtre derrière elle et descendent les quelques marches qui leur permettent d'accéder à la petite cour intérieure privative. L'endroit est véritablement charmant. La cour est délimitée par les hauts murs des bâtiments voisins, mais aucune fenêtre n'y donne, de sorte qu'elle offre une intimité totale. Le sol y est pavé. Un large platane, qui doit être centenaire, a poussé en plein milieu et apporte ombre et fraîcheur au lieu. La vieille dame a disposé au sol, de part et d'autre de la porte-fenêtre, de nombreux bacs remplis de fleurs en tout genre et de toutes les couleurs. Sous l'arbre se trouve une table ronde en bois et deux petites chaises. Le gros chat roux est couché sous la table. Il les observe avec méfiance.
Voici la fameuse cour. Vous pourrez y accéder en passant par chez maman. Je ne pense pas qu'elle y verra d'inconvénient. Comme je vous le disais, elle préfère rester dans le salon au frais pendant l'été. J'espère que Canaille vous acceptera ici. C'est une chatte plutôt méfiante.
Annie se baisse et tend une main en direction du chat qui ne bouge pas d'un poil.
« Elle n'est pas d'humeur aujourd'hui.
Elle a dû comprendre qu'on allait lui enlever son bébé. »
C'est Joanne qui interroge. « Son bébé ?» Annie se relève et explique.
« Canaille a mis bas, et sur les trois chatons de la portée, seul l'un d'eux a survécu. Un petit mâle. Maman ne peut pas s'occuper de deux chats à son âge, et de toute façon, il finirait par se battre une fois que le chaton sera devenu adulte. »
Joanne semble assez affectée par cette histoire. Émile la voit froncer les sourcils avec inquiétude.
« Qu'est-ce que vous allez en faire ?»«
Je n'ai pas trouvé à le donner. »«
Vous n'allez pas le tuer ?»
La voix de Joanne a pris des accents de petite fille horrifiée. Annie a un air abattu.
« Si. Si on ne lui trouve pas de famille. »«
Où il est ?»
Annie remonte les quelques marches qui mènent au salon de sa mère.
« Il est dans un coin du salon. Vous voulez le voir ?»
Joanne acquiesce avec empressement et s'engouffre à l'intérieur de la maison à la suite d'Annie. Émile s'attarde un instant dans la cour avant de les suivre. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Il se voit déjà assis à la petite table en bois sous le platane. Il songe que la vieille dame n'a pas l'air si vieille et si malade. Elle semblait plutôt vive tout à l'heure. Ça pourrait être une cohabitation agréable, tout compte fait. Dans le salon, il retrouve Joanne accroupie devant un panier dans lequel dort un minuscule chaton roux et blanc qui peine à garder les yeux ouverts.
« Quel âge il a ?»
C'est la vieille dame qui répond. Elle s'est levée de son fauteuil et avance vers Joanne, Annie et le chaton avec difficulté.
« Il a 2 mois. Il vient tout juste d'être sevré. »
Annie se retourne en sursautant.
« Maman, reste assise un peu, tu t'épuises inutilement !»
Mais la vieille dame ignore superbement sa fille. Elle continue, s'adressant uniquement à Joanne.
« Annie veut qu'on le tue, si je ne trouve personne pour l'adopter. »
Annie intervient.
« J'aurais voulu qu'on le tue directement, mais maman n'en a fait qu'à sa tête. Elle a essayé de gagner du temps. Attendons qu'il soit sevré, on trouvera bien une famille d'adoption pour lui. Maintenant, on a un chaton de 8 semaines qu'on va devoir tuer. »
Joanne détache enfin son regard du petit chaton roux et blanc. Elle se relève avec un air de petite fille qui se prend au sérieux.
« Je peux m'en occuper pour le moment. Il serait à l'étage tout près de sa mère. Et puis je vous aiderai à lui trouver une famille. J'irai coller des affiches dans le village. Je suis sûr qu'on lui trouvera un foyer. »
Le visage d'Annie change du tout au tout. Elle, qui était irritée par l'entêtement de sa mère, se met à sourire.
« Je dois comprendre que vous prenez l'appartement ?»
Joanne lève un regard plein d'appréhension vers Émile. Elle semble s'apercevoir qu'elle a parlé trop vite, qu'elle ne l'a pas consulté.
« Je... »
Annie se tourne vers Émile.
« Je comprends parfaitement que vous ayez besoin de réfléchir. Je peux vous laisser la journée ou même quelques jours. »
Mais Émile a déjà réfléchi. Ils n'ont pas tellement de temps à perdre en réflexion s'ils veulent régler cette histoire de mariage au plus vite.
Pour ma part, je suis déjà décidé.
Il voit le regard de Joanne s'allumer, hésitant entre appréhension et joie.
Je suis décidé à le prendre.
Annie semble aussi ravie et soulagée que Joanne. Elle fait claquer ses mains pour manifester son contentement.
Eh bien, c'est parfait. Je suis ravie de savoir que c'est vous qui allez veiller sur maman. Je suis sûr que vous vous entendrez à merveille. Est-ce qu'on règle ces histoires de paperasse maintenant ?
Annie, Émile et Joanne s'installent dehors, sur la petite table en bois sous le platane. Joanne n'a pas menti. Annie est prête à leur faire signer le bail sur le champ, sans garant, sans acompte, sans justificatif de revenu. Tout ce qu'elle souhaite, c'est un peu de compagnie pour sa mère. Elle est persuadée que la présence de jeunes personnes lui fera le plus grand bien. Émile apprend que son prénom est Myrtille et qu'elle a perdu son mari, le père d'Annie, il y a 10 ans déjà. Annie sort les papiers du bail et les remplit en sussautant un stylo bille.
« Qu'est-ce qui vous amène ici ?»
demande-t-elle soudain, en relevant les yeux de ses papiers un sourire aux lèvres. C'est Émile qui répond face au mutisme troublé de Joanne.
« On souhaite se marier ici. »
Le visage d'Annie s'illumine, sa voix monte dans les aigus.
« Oh, toutes mes félicitations, c'est fantastique !»
Ils tentent tous les deux d'avoir l'air aussi enthousiaste qu'elle, mais cela ne prend pas.
« Vous allez emménager dans votre propre chez-vous, j'imagine, une fois que vous serez mariés. »
« Sans doute. » Elle fait glisser les papiers vers eux en souriant toujours.
« C'est un excellent choix. Ce village est un havre de paix. Je vous laisse remplir. »
Les papiers sont remplis. Il manque des photocopies des pièces d'identité, mais Annie a dit qu'il pourrait les lui amener demain, quand ils emménageront. La vieille dame s'est endormie dans son fauteuil, et aucun des trois ne souhaite la réveiller. Ils se séparent d'Annie sur le perron, se donnant rendez-vous à midi le lendemain pour l'emménagement. Alors qu'ils retournent à leur parking, à l'extérieur des murailles, les seuls mots que Johan a pour Émile sont
« Il va falloir lui trouver un petit nom !»